Eh bien, bonsoir et merci d'être venu à la rencontre de Marie Nimier et d'Emmanuel Darlet, les deux écrivains que nous sommes très heureux d'accueillir ce soir pour le cycle En échange, un cycle organisé par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature qui propose chaque mois à un écrivain de choisir et de présenter l'un de ses pairs. Ce soir donc, Marie Nimier accueille Emmanuel Darlet. Marie Nimier est l'auteur d'une dizaine de romans publiés aux éditions Gallimard, de La girafe jusqu'à Photo Photo, en passant par La reine du silence, qui a obtenu le prix Médicis en 2004. Marie Nimier écrit aussi pour la danse, le théâtre, et son dernier livre paru, La confusion, est d'ailleurs une pièce de théâtre publiée en 2011 aux éditions Actes Sud Papier. Son complice littéraire de ce soir, Emmanuel Darlet, est romancier, auteur de 4 romans, mais il est surtout dramaturge puisqu'il a écrit une dizaine de pièces de théâtre, parmi lesquelles Mardi à Monoprix, qui a été mis en scène par Michel Didim et interprété par le comédien Jean-Claude Dreyfus et a connu un très grand succès. Je vous laisse donc en leur compagnie en vous précisant que vous pourrez naturellement retrouver les livres de nos deux invités en accès libre à la BPI.
Bonsoir, je suis un peu intimidée parce que dans cette salle, quand je viens en général, je ne parle pas et je déteste les gens qui parlent. Donc j'espère qu'on ne va pas déranger. Non, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de têtes qui se retournent là-bas dans vos tables de travail. Puis je n'ai pas non plus vraiment l'habitude de parler, enfin de ne pas avoir une table devant moi. Donc on va essayer de se... Non, c'est pas grave, sur les genoux. Donc n'hésitez pas à nous interrompre quand vous le voulez, quand vous le désirez. Vous êtes là, ça s'appelle une rencontre. C'est fait pour ça, pour se rencontrer. Voilà. Et Emmanuel Darlet, ben, on se connaît pas. On profite de cette rencontre pour se rencontrer. Donc on va se vouvoyer et c'est pas du théâtre. Il se trouve que plusieurs fois on nous a associés. La dernière manifestation où nous avons été associés s'appelle... Les auteurs vivants ne sont pas tous morts. Il a survécu, moi aussi. C'est une manifestation dans le Limousin. Des lectures, mises en espace de texte. Nous avons aussi été associés à une autre aventure autour du personnage du monstre, à la Comédie française. Nous devions l'un et l'autre écrire des textes autour de la thématique des monstres, qui fait l'objet d'une lecture après à la Comédie française et d'une publication. Et nous avons aussi fait une espèce de rencontre une fois dans une bibliothèque, voilà. Et on se connaît pas plus, donc voilà, c'est notre vraie première fois. J'ai envie de lire une toute petite présentation d'Emmanuel par lui-même, publiée dans Les 5 doigts de la main, puisque Emmanuel Darlet écrit aussi pour la jeunesse, dans ce petit livre qui est sur les 5 doigts de la main. D'abord, je suis née. Ensuite, je suis allée à l'école, comme tout le monde. J'ai voulu faire vétérinaire, comme beaucoup. À pompier, non. Pilote d'avion, non plus. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de raconter des choses, d'exprimer des sentiments, de faire rire ou bien pleurer. Pour commencer, j'ai voulu faire chanteur de rock. C'est vrai ou c'est pour faire rire ?
Non, c'est vrai. Non.
Et vous chantez très très mal. On pourrait peut-être avoir une petite démonstration. Non, parce que vous avez un micro, là, une scène, peut-être ce serait le moment. Non, d'accord. Ce n'était pas une bonne idée. Ensuite, je me suis dit, je vais faire du cinéma, réaliser des films. Et alors, j'ai commencé à écrire un scénario. Au bout d'un moment, j'ai pensé...
Ça sera un roman.
Cela va être un roman. Alors, j'ai écrit des romans et plus tard, des pièces de théâtre. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Donc, ça raconte déjà plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans surtout, c'est le passage du roman, l'aller-retour entre le roman et l'écriture théâtrale. Parler un peu cuisine, quoi, parce que je vais cuisiner un petit peu. Alors, on m'a dit surtout, c'est une rencontre, donc c'est pas du tout toi qui fais la journaliste et puis lui qui répond. Alors voilà, je parle beaucoup pour faire, et puis après je vais laisser parler. Le premier euh, roman, moi, que j'ai lu, c'est Des petits garçons. C'est celui-là qui a été écrit en premier.
C'est le premier. Ouais. C'est celui dont je parle, qui était un scénario au départ, qui est devenu un roman.
Alors moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir déjà comment ça peut passer, d'un... que ça peut être un scénario, aurait pu être un scénario ou un
Disons que c'était l'idée de départ, d'écrire un scénario, et puis dans les... très vite, dans les premières pages, de ce qu'on pourrait dire un synopsis, je me suis dit, je vais plutôt écrire un roman.
J'imagine très très vite, parce que pour moi, c'est un roman, ça ne peut pas être autre chose qu'un roman. C'est vrai ?
Ça doit être pour ça que j'ai décidé que ça sera un roman.
Alors, puisqu'on parle de forme, il y a marqué récit dessus, sur le livre. C'est quoi ça ?
Je ne sais plus.
Ah, d'accord.
Si je me souviens, en fait, que c'est avec l'éditeur POL qu'on s'est un peu... je ne sais pas si bagarré, c'est le mot, mais ça a été une discussion, en tout cas, de savoir si on mettait roman ou récit ou rien. Et il voulait absolument mettre récit. Comme j'étais assez jeune et un peu...
Influençable.
Ça m'a semblé bien.
Ce serait quoi un récit par rapport à un roman ?
C'est la bonne question, voilà.
Non, parce que là, c'est vraiment un roman. Je veux dire, c'est pas récit. On peut penser quelque chose un peu autobiographique ou quelque chose comme
non,
ça.
Non, moi, j'aurais mis roman. Si c'était maintenant à refaire, je mettrais dans roman.
Mais j'espère que ça sera peut-être réédité en poche... Ça a été publié quand ? Il y a très
93.
Longtemps. 93, ça mériterait une édition de poche. Moi, c'est un roman que j'ai adoré, que j'ai découvert grâce à cette rencontre. Et je vais en lire juste des tout petits passages pour vous donner une idée. Alors justement, ce n'est pas du tout un scénario parce que ça a une fluidité. Alors on est complètement dans le brouillard. On est là avec quelques éléments qui se répètent comme un peu dans un manège qui tournerait dans le brouillard. Enfin, en même temps, ça ferait un très joli film, mais ce n'est pas des films qu'on arrive à faire, quoi. On n'arrive pas à les tourner, ces films-là. C'est très, très beau, ces espèces de brouillards qu'on affronte comme ça, un peu dur. Hein, et il y a les mêmes images qui reviennent. Et il y a une perception du temps très étrange parce que vous allez voir, je vais vous lire quelques extraits des premières pages et on passe du petit garçon à l'adolescent à l'homme. On ne sait pas comment ça s'est fait. Et tout le livre est comme ça, dans ce brouillage de temps. Je suis un petit garçon qui joue dans une maison. Je galope dans le couloir, je suis un cavalier dépassant son ombre, soulevant la poussière. À la sortie du canyon, j'entre dans le salon, un monsieur m'attend. C'est un petit homme un peu rond, avec retenu par une ceinture de cuir, un ventre qui dépasse. Il me prend par la main, il m'entraîne vers l'entrée. Nous descendons l'escalier, nous passons la porte cochère, nous marchons dans la rue. Je me tourne vers la maison. Elle est à la fenêtre, elle me regarde partir, ne fait pas un geste. Main dans la main, le petit homme et moi, nous prenons le chemin de la promenade. Ma mère est venue hier, comme tous les mercredis. Elle se lève quand j'arrive. J'ai dû vieillir. Son visage se creuse semaine après semaine. Le gros s'assied dans un coin en écartant largement les jambes. Il lit Playboy et boit de la bière à la bouteille. Je fabrique des porte-clés ornés d'un petit schtroumpf en plastique. Le schtroumpf paresseux, le schtroumpf bricoleur, le grand schtroumpf. Je travaille bien, j'ai du talent. C'est le gros qui le dit. Un jour, je changerai de place, je prendrai du galon. Le bruit des machines est assourdissant. En dessous de l'horloge, assis à une table étroite, le garçon blond du terrain de foot s'applique à peindre des schtroumpfs. Il relève la tête et croise mon regard. Je lui lance un sourire complice, il baisse les yeux. Ma machine s'emballe. J'ai laissé passer quelques schtroumpfs. Un schtroumpf gourmand, un schtroumpf grognon. Je lève les yeux des porte-clés qui défilent sur le roulant. Le garçon blond n'est plus à sa table. Le set est sorti. Je suis seule dans l'atelier avec le cliquetis aigu et sourd de ma machine. J'ai laissé passer la sonnerie de fin de journée. Le gros dit souvent « Voilà un gars qui aime son travail ». Donc ça, ce sont des extraits des 10 premières pages. Et on le voit grandir par la réaction de sa mère, par la façon dont l'adulte se comporte par rapport à lui. Et en même temps, rien n'est dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a l'air d'avoir un meurtre quelque part. C'est comment ça se construit, ça? Comment ça se s'imagine?
En fait, dans mon souvenir, parce que c'est maintenant c'est assez ancien, mais l'envie de départ, c'était d'écrire sur l'enfermement, c'était d'écrire sur la prison. Et je voulais... Ce que j'aime dans ce livre, maintenant que c'est assez ancien, c'est qu'en fait, je retrouve plein de choses qui sont déjà présentes, enfin, qui sont encore présentes, qui sont déjà là il y a longtemps, qui sont effectivement, par exemple, l'absence de repères et dans le temps. On ne sait pas vraiment à quel moment ça se passe. On ne sait pas vraiment l'âge de ce personnage principal. Est-ce que c'est vraiment un petit garçon? Est-ce que c'est un adolescent? Est-ce que c'est quelqu'un de notre âge? Je ne sais pas vraiment. Et puis, l'espèce de flou aussi géographiquement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement. Mon idée à moi, c'est que ça se passe dans une prison. C'est le point de départ. C'est l'envie d'écrire. Mon envie, elle est venue parce que je passais souvent au pied de... Enfin, dans le boulevard qui longe la prison de la santé, et que j'avais envie d'écrire là-dessus, j'avais envie d'imaginer ce que c'était la vie là-dedans. Et en même temps, c'est jamais dit clairement, c'est jamais précis. Ça pourrait être un hôpital, être une espèce de colonie pénitentiaire ou une colonie, une espèce de maison de redressement comme ça. Et c'est ce qui m'intéressait vraiment d'arriver à troubler comme ça le lecteur. Peut-être que c'est un livre qui trouble beaucoup le lecteur, qui le perd un petit peu en chemin comme ça, mais après, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'entendre l'intérieur d'un personnage, avec la confusion, avec les mélanges qu'on peut faire entre le réel, ce qu'on imagine, les fantasmes, les rêves. Voilà, dans une position comme ça d'enfermement, où justement, il me semble, le réel finit par disparaître un peu, être un peu mélangé, confus, à cause du rêve et de ce qu'on peut imaginer, quoi.
Alors justement ça, puisque c'est parti d'une idée de scénario, et justement on ne pourrait pas du tout imaginer ça incarné ou au théâtre par exemple. Comment on pourrait faire ça au théâtre? Ça ne peut pas exister ça?
Je ne pense pas, non. Non,
d'accord.
Je pense pas, non.
Déjà on sait qu'une chose ne peut pas exister au théâtre, c'est bien. C'est-à-dire que là on tient quelque chose
à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que vous disiez sur le cinéma... Et la formule que vous avez employée, des films qu'on pourrait pas faire aujourd'hui. Mon point de départ, l'envie que j'avais, c'était de faire quelque chose dans l'esprit d'un film qui s'appelle Johnny Got His Gun, donc qui est déjà très littéraire, il y a vraiment un texte, tout est autour du texte, de ce qui se raconte, de l'intérieur d'un personnage. Et c'était vraiment ça mon envie de départ. C'était vraiment ça le déclic qui a fait que j'ai eu envie d'écrire ce livre, quelque chose qui aurait pu être un film au départ, et puis qui est devenu un livre.
Enfin, pour moi, c'est une grande réussite. Je vous vraiment conseille de le lire. Alors, ça m'a fait très curieux. Ça s'appelle Des petits garçons. Curieusement, ça m'a fait penser à des trucs qui ne vous ressemblent pas du tout. Ça m'a fait penser à certains livres de Queneau ou d'Aragon. Enfin, ça ne ressemble pas. Enfin, en tout cas, le théâtre ne ressemble pas du tout à ce que. Ni à l'un ni à l'autre. Mais en même temps, dans Le Chien d'Ans ou dans Blanche d'Aragon, on a ces univers flottants, ces paysages qui se brouillent. Enfin, il y a quelque chose comme ça là-dedans. Ouais. C'est pas du tout des auteurs qui vous parlent.
Bah, Queneau un petit peu, mais Aragon, j'avoue que non.
Non, mais moi, j'ai pas beaucoup lu Aragon, mais Blanche, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et. Ben, c'est peut-être parce que ça s'appelle Blanche, il y a quelque chose de très blanc là-dedans. Hein, il y a quelque chose d'épais, de ouaté, de blanc, à part une tache qui est au plafond et qui s'agrandit. Fait un peu penser à un univers, on saute ailleurs, on va chez Gombrowicz un peu, on est un peu comme ça avec les fissures dans le plafond. Et alors ces personnages donc sont enfermés, en effet, se bastonnent de temps à autre et fabriquent des schtroumpfs. Alors en lisant, j'étais troublée à un moment, je me suis dit comment on dit le pluriel de schtroumpf, est-ce que c'est des schtroumpfs? Est-ce qu'il faut dire le S au bout?
Non.
Non, hein, les schtroumpfs.
Je ne crois pas.
Donc des schtroumpfs. Et là, ces schtroumpfs, on les retrouve dans d'autres pièces. Enfin, ça ne s'appelle plus des schtroumpfs, mais enfin, on fabrique des choses dans vos pièces.
Oui, enfin, c'est l'idée du travail, l'idée de la chaîne, l'idée de faire quelque chose en boucle comme ça, du travail, un peu de l'abrutissement du travail, c'est une chose qui effectivement est assez présente dans beaucoup de textes.
Donc, il est présent dans Flexible, où on fabrique. Est-ce qu'on fabrique des clangs ou c'est le bruit?
On fabrique des clangs.
Oui, on fabrique des clangs. Alors là,
on n'est plus que le bruit, quoi.
On fabrique des clangs. Alors là, on rejoint Bobby Lapointe. On n'est toujours pas dans votre univers.
Non, mais enfin, c'était dans cette pièce, ce Flexible Pop. L'idée, c'était vraiment d'aller au bout d'une logique industrielle. Et donc, normalement, la vraie logique, c'est qu'on a supprimé les hommes pour les remplacer par des machines. Mais en fait, dans le monde de Flexible Pop, les machines coûtent trop cher, donc on supprime les machines. Et c'est juste les hommes qui restent, qui sont assis comme on est là tous les deux, à faire juste le bruit que faisait la machine. Et donc ça devient quelque chose d'absolument
absurde et
flottant. On ne sait pas très bien ce que ça représente, mais voilà, ils font juste des clangs. Mais c'est très concret, quoi. C'est vraiment des clangs de qualité. Voilà, quoi.
On peut rater un clang.
Ah, on peut rater un clang, il faut faire attention. Quoi.
C'est grave, ça peut avoir des conséquences.
Voilà, et quand
sur
ils
la
ferment
santé.
L'usine. Les deux patrons sont très ennuyés parce qu'il ne faut quand même pas perdre les clangs, la qualité des clangs, le marché des clangs, il ne faut pas le perdre. Mais voilà, ça reste quelque chose de très abstrait. Quoi.
C'est intéressant. Et vous avez d'autres machines comme ça peut-être. Moi, je n'ai pas tout lu, hein, je n'ai que quelques-uns.
Après, il n'y a pas d'autres. Non, je pense que c'est les deux endroits où il y a du travail vraiment.
Travail.
Des choses qu'on fabrique avec les mains.
Et donc,
ce n'est
pas forcément, quand vous parlez du travail, pour parler de la relation de pouvoir ou de la relation de domination ou d'exploitation. Il me semble pas, enfin, en tout cas, moi...
Non, pas réellement. C'est, enfin, l'idée de... Enfin, dans les petits garçons, l'idée des Schtroumpfs, c'était vraiment l'idée de la minutie. Et puis, en même temps, il y avait l'idée de l'enfance, le côté enfantin, comme ça, de ces objets. Et puis, ce qui m'intriguait aussi, c'était le fait de travailler comme ça en prison et de fabriquer des choses qu'on va donner à l'extérieur et qui sont vraiment des choses ludiques. Pour des gens qui sont enfermés, quoi. C'était ce que je voulais absolument montrer.
Oui, parce que c'est
assez
terrible parce qu'ils se fabriquent des porte-clés. Alors quand on est en prison, fabriquer des porte-clés, même si on ne dit pas qu'on est en prison, on voit bien qu'on est dans un univers fermé. Et il le fait avec une minutie et une. Enfin voilà, c'est un bon travailleur.
C'est un vrai travailleur,
c'est un vrai bon travailleur.
Tient absolument.
C'est horrible.
C'est
d'une perversion totale.
Ce... Voilà, puis après il y a les Schtroumpfettes. Ils ont une autre commande avec des Schtroumpfettes, donc.
Alors. Flexible hop hop, on va peut-être pas en parler tellement plus parce que je voudrais m'attarder sur il est là sur le mardi à Monoprix et j'aimerais à cette occasion on vient de citer ce titre Flexible hop hop et mardi à Monoprix, on est avec des titres très musicaux, très alors là on rejoint le chanteur de rock peut-être.
Oui, je pense que ça n'est jamais vraiment parti, mais l'idée de la musique, elle est très présente et c'est vrai que ce titre-là, j'ai travaillé vraiment sur la sonorité et l'idée du titre au départ, c'est par rapport à une chanson de, j'aime beaucoup mettre en fait de la musique dans ce que j'écris, c'est-à-dire que je mets plein de phrases, je prends souvent des phrases de chansons que je mets dans les textes, que ce soit du théâtre ou des romans. Donc, comme ça, je peux citer, il y a Hervé Villard, Caprice est fini, il y a Les mots bleus de Christophe.
Des grands classiques,
des
belles choses.
Ouais. Il y a
Claude François, peut-être
Claude François, non, je crois pas.
Ah.
Mais il y a Les robes de Nino Ferrin, voilà.
Ouais.
Et puis, le mardi à Monoprix, le titre, en fait, ça se passait à Monoprix, ça, je voulais absolument. Et puis, j'avais trouvé le titre par rapport à une chanson de je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne trouve plus le nom.
Ah.
C'est deux Maliens aveugles, Amadou et Mariam, voilà, qui ont fait donc, le dimanche à Bamako,
dimanche
et voilà, c'était par rapport à ça.
Et
souvent les titres.
Je n'avais pas fait le rapprochement, enfin, ça s'entend tout de suite que c'est un titre le mardi à Monoprix, ça swing. Et en même temps, il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans tous les livres, c'est, tout ce que j'ai lu. Vous citez facilement des marques, des choses comme ça. Alors, tout à l'heure, on disait, on est dans des petits garçons, on est hors du temps, dans un univers ouaté. Pourtant, on a les Schtroumpfs qui datent absolument l'histoire. Et Monoprix, ça date absolument l'histoire, parce que je pense que c'est le Monoprix d'avant, pas le Monop. C'est Monoprix.
Bah, c'est le Monoprix, peut-être, on va dire, plutôt de province, quoi, disons. C'est-à-dire que, effectivement, moi, j'habite Narbonne. Et l'idée de la pièce, elle m'est venue en étant dans le Monoprix à Narbonne. C'était pas un mardi, mais après, ça marchait mieux pour le titre. Mais c'est vraiment le Monoprix. On n'a pas de Monop, en fait, à Narbonne. Donc, c'est vraiment le Monoprix, effectivement, un peu à l'ancienne, mais qui existe
le
toujours.
Le prix unique, plutôt, moi, je dirais.
Oui.
Ah, si ça sonnait aussi bien. En même temps, moi, je veux creuser un peu là-dessus parce que je trouve que c'est, enfin, pour moi personnellement, en tant qu'écrivain, j'essaye d'éviter. Enfin, je suis parfois tentée, mais j'essaye de. Mais finalement, j'enlève, je gomme ça, je gomme les marques et les choses comme ça parce que je trouve que ça met tellement, ça date tellement les choses.
Mais en fait, c'est vrai que, enfin, ça, après, ça dépend des textes. Peut-être qu'au départ, c'était vraiment l'idée de ce flou géographique et temporel. Et puis, dans les derniers textes, en particulier dans ce texte-là, où j'avais vraiment envie qu'il y ait quelque chose d'absolument concret, que ce personnage principal, le personnage féminin du Mardi à Monoprix, donc Marie-Pierre, qu'elle soit vraiment dans quelque chose de tout à fait concret, de faire des gestes concrets, d'aller dans des endroits concrets. Et donc, ça me semblait absolument obligé de citer une marque. Enfin, j'ai pas pensé en ces termes-là, si vous voulez. J'ai vraiment pensé par rapport à un lieu. Voilà, un lieu qui existe, dans lequel moi je vais moi-même. Et par exemple, c'est un texte qui a été traduit dans plusieurs pays. En allemand, c'est traduit par le supermarché, et c'est moins bien. Parce que c'est plus. On sait pas très bien. Alors que Monoprix, pour moi, je vois vraiment les endroits, je vois vraiment le magasin, je vois vraiment les caisses, que ce soit à Narbonne ou ailleurs. Mais j'avais besoin pour ce personnage-là, qui par ailleurs. C'est sa parole intérieure, on est plutôt dans un doute et dans un trouble. Et il y avait vraiment nécessité qu'en face de ça, qu'en face de ce trouble, il y ait des choses très concrètes, très existantes, quoi, disons.
Mais quelqu'un qui le lira, enfin, déjà même aujourd'hui, puisque le Monoprix, c'est plus exactement le Monoprix du temps où il y avait Prise Unique et Monoprix. L'enseigne devient de plus en plus chic, etc. Donc, dans 20 ans, ça n'existera plus, il y aura quelque chose d'autre. Ça ne vous fait pas peur, ça? Parce que ça, pour l'écrire, je comprends bien qu'on ait besoin d'un lieu. Mais le nommer, ben, je trouve ça super beau comme titre, hein, je l'aime beaucoup.
Voilà, ouais, je pense que, enfin, j'ai pas réfléchi dans ce sens-là, quoi. C'était vraiment de. Et concrètement, parce que c'était l'endroit où j'avais trouvé l'idée, où j'avais trouvé le personnage, où j'ai vu ce personnage.
C'est par fidélité, finalement.
D'une certaine façon, oui, j'ai pas forcément la carte de fidélité, mais j'avais vraiment envie de la. Et puis c'était surtout par rapport à l'idée de ce que c'est pour moi ce magasin, c'est-à-dire un endroit de proximité, un endroit où il y a plein de gens. Mon idée du Monoprix, elle est assez éloignée de ce que peut-être le Monop dont vous parlez.
Oui, très éloigné. Voilà. C'est bien pour ça que je trouve que ça fait un peu des fausses pistes.
Sans doute parce qu'entre Paris et la province, entre Monop et Monoprix, il y a encore une grande différence.
Mm-hmm. Mais bon, chez moi, il n'y a pas de Monoprix. Il y a un Simpli, par exemple. Ouais, mardi, chez Simpli, c'était pas mal aussi.
Ouais. Ouais. Bon.
peut-être on peut en lire un petit bout pour savoir de quoi on parle. Donc, c'est ce personnage Marie-Pierre qui arrive. Qui arrive chez son père. Ah oui, d'ailleurs, ça commence par une didascalie étrange. On va peut-être parler de ça et après, j'en lirai un petit bout. Elle s'avance, on se regarde, ça dure un temps. Enfin, c'est pas étrange, mais moi, j'aime beaucoup ces didascalies. Il y en a plusieurs dans les autres livres aussi, parce que ce sont des adresses au public. Hein. C'est des façons d'être avec les gens. En même temps, bon, là, on parle du père, hein. En fait, elle arrive chez le père, hein, et elle parle bien du père, et à la fois, vous parlez bien du rapport entre l'acteur et le. Et ça, c'est fait avec une finesse, c'est somptueux. Moi, je trouve ça très beau.
Oui, d'ailleurs, le on se regarde, enfin, c'est. Je l'ai toujours pensé, non pas par rapport au père, mais par rapport au public,
au public,
en fait.
Voilà,
à vraiment à la
exactement.
Personne qui vient là devant nous et qui reste un bon moment avant de commencer.
J'avais noté un truc, page 18. Qu'est-ce que c'était ? Bon, je ne sais plus. Et une autre petite chose aussi, sur le tout début. Je pense que ce serait bien de parler de la ponctuation dans ce texte. On peut en parler dès la deuxième phrase. La première phrase, c'est « Tout le monde me regarde le mardi, point tout le monde, point ». Et ensuite, on a une phrase sans ponctuation, et il y en aura beaucoup comme ça dans le texte. « Me regarde avec le coin de l'œil, comme si discret, mais en fait, pas du tout ». Alors là, je l'ai lu complètement à plat, évidemment, pour... Alors, donc, on n'a pas les points d'appui habituels de la ponctuation. Et évidemment, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à travailler à ça? Parce que ce n'est pas dans tous les textes, c'est particulièrement dans celui-là. Oui, ça dépend des textes. Ouais. Alors, pourquoi dans celui-là et comment et blablabla
L'idée, c'est que c'est une pensée, en fait. Tout le livre est une pensée, tout le texte est une pensée intérieure, même si on entend aussi des voix qui sortent aussi. Mais tout le livre est une pensée intérieure. Et ce qui m'intéressait dans le retrait, dans l'effacement de la ponctuation, disons, c'était l'idée de... Que le comédien trouve le rythme de la pensée, trouve le rythme des hésitations, des sursauts de pensée, des détours de pensée. C'était un peu ça. C'était comme une espèce de grande phrase qui circule, voilà, et qui trouve pas forcément son rythme dans la pensée, quoi.
Et cette première phrase, donc, vous l'avez entendue par plusieurs comédiens?
Oui, par quelques-uns, oui. Une dizaine, quoi, à peu près.
Une dizaine de comédiens, c'est bien. Donc, vous avez pu l'entendre de façon différente. Est-ce qu'on peut la ponctuer? Est-ce que vous pouvez la lire de plusieurs façons?
En fait, je pense que tout le monde, qu'elle arrive assez vite. Tout le monde me regarde le mardi. Tout le monde me regarde avec le coin de l'œil, comme si discret, mais en fait, pas du tout. Le mardi, c'est le jour que je passe là-bas à lui rendre service, à lui faire son ménage, sa lessive, son repassage.
Alors, il y a quand même des indications très... Si la ponctuation s'est envolée, il y a des indications très précises de passage à la ligne. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces passages à la ligne? Ça veut dire qu'on s'arrête plus longtemps qu'un point?
C'est une respiration.
D'accord. Moi, c'est étrange. Sur mes textes de théâtre, j'ai rencontré plusieurs acteurs qui m'ont dit qu'ils respectaient la ponctuation à la virgule près. Enfin, ils étaient très, 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 très attentifs à ça. Est-ce que c'est pour lutter contre cette fidélité du comédien aussi? Je me suis demandé.
Je ne sais pas très bien, en fait.
Est-ce que c'est pour lui donner de la liberté? C'est ce que c'est pour lui l'obliger à réfléchir, l'obliger lui-même à donner son phrasé?
Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, quoi. C'est d'essayer de trouver un rythme lui-même, mais en même temps, je pense qu'il n'y en a pas non plus 36 possibles à l'intérieur de ça, quoi.
Alors pourquoi pas mettre la ponctuation s'il n'y en a pas 36?
C'est plutôt l'idée que c'est souvent des très longues phrases comme ça dans lesquelles on se perd. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi le souffle, la perte de souffle là-dedans, c'est-à-dire l'espèce de truc qui s'essouffle et qui... Après, on est obligé de reprendre le souffle, de retrouver ce qu'on voulait dire. Mais c'est comme une pensée, voilà. C'est le truc qui se perd, dans lequel on s'embrouille, dans lequel ça devient obsessionnel, ce qui est ce qu'on entend dans le texte, de qu'est-ce que je veux dire, pourquoi est-ce que je suis là, qu'est-ce qui fait que je répète les choses.
Et donc, est-ce que c'est le seul monologue où il y a cette
absence? Non, il y a d'autres textes.
Oui, il y a d'autres textes, ouais. Mais
celui-là, c'est vraiment celui où c'est le plus important.
Parce qu'il y a quand même de la ponctuation. Hein, c'est pas, il y, a, oui, y en a pas mal, en fait, quand même, de la ponctuation. Mais
Après, c'est une langue qui est... En tout cas, de ce qu'en disent les acteurs, c'est une langue qui est très compliquée à mémoriser.
Ah oui.
Parce que c'est une langue, voilà, qui effectivement n'a pas de, il n'y a pas forcément toujours l'endroit où on peut se reposer. C'est une langue qui est très répétitive, qui revient sans arrêt sur des mêmes phrases. Le mardi à Monoprix, par exemple, cette phrase-là. Et donc on s'y perd. Enfin, c'est une langue qui est compliquée à mémoriser et à mettre en bouche. En tout cas,
moi, ça me paraît tellement précis que ça me semble très simple à mémoriser, mais non. Il y a ce mot qui revient toujours, tel quel T E 2 L E, quel Q E 2 L E. Parce qu'en fait, Marie-Pierre, un jour, a été Jean-Pierre. Hein. Donc, cette fille qui revient voir son fils a été un fils qui a été aimé de son père et que maintenant, il a un petit peu de mal avec Marie-Pierre. Et il revient toujours, tout le temps, ce tel quel.
Mais en même temps, c'est une chose très étrange, c'est-à-dire que donc ce personnage féminin qui était masculin avant, la façon qu'elle a de dire voilà, j'ai changé, maintenant je suis une femme, sa façon de dire, ce qu'elle a trouvé, c'est cette phrase, ces deux mots tels quels. Et je me suis rendu compte très longtemps après, une fois que c'était écrit, même une fois que c'était joué la première fois, que quand on l'entend, on n'entend rien, quoi. On n'entend pas du tout le féminin, quoi.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que ça m'a.
Et c'était étrange parce que sur le coup, en l'écrivant, j'étais super fier de moi. Enfin voilà, je trouvais ça vachement bien. Tout d'un coup, de l'écrire avec deux LE et tel quel, ouais, ça marchait très bien. Mais en même temps, à l'oral, on l'entend pas du tout. Ouais. Et voilà. Mais en même temps, je pense qu'on l'entend quand même.
C'est-à-dire que ça va être le boulot du comédien de le faire entendre. Ça, c'est un vrai défi. Moi aussi, c'est la réflexion que je les ai soulignées. Je me dis, c'est drôle. On va peut-être en lire un petit passage. Vous voulez le lire, hein? Super. À partir d'ici jusqu'ici.
Okay. Donc, c'est à l'intérieur du Monoprix. Je dis, viens voir. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis de cette confiture-là? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu la mangeras? Et alors il doit se baisser, s'approcher, venir au contact. Il est tout contre moi. Il dit, on voit ta barbe. Il dit, pas du tout ça, une femme. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu imagines? Bien trop carré. Tu es carré, Jean-Pierre. Je dis, arrête, papa. Je dis, tu veux que tout le monde nous regarde? Je vais plus loin. Je suis la liste, ce qu'il nous faut pour la semaine achetée. Il ne faut rien oublier. Je dis, j'aime bien, tu sais, venir te voir. Cela me fait plaisir d'être là avec toi pour te rendre service et que tu sois au moins le mardi, moins seul. C'est vrai, je le comprends, ce n'est pas facile d'être tout d'un coup comme ça, seul. Je dis, qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui tous les deux? Je dis, qu'est-ce que c'est qui te ferait plaisir? Il me regarde. Il me regarde, il me détaille. Je ne sais pas, je voudrais qu'il regarde ailleurs. Il me détaille, il retire peu à peu tout ce qui me fait tel quel. Il ne voit que Jean-Pierre. Dessous, derrière. Il dit, on n'a qu'à rentrer à la maison. Il dit, là au moins. Il s'éloigne. Il reprend sa distance. On suit la liste des courses, on jette un œil ici et là pour l'inutile et le futile, mais on ne peut pas passer la matinée à ça, traîner. Alors, au bout d'un temps, il faut s'y résoudre, on s'avance vers les caisses. On fait la queue à Monoprix. Si on venait plus tôt, moins de monde il y aurait, mais comment faire? Tous à venir à la même heure, alors que bien le temps ils ont, eux. Ils viennent tous les jours, alors que nous, le mardi simplement. Il dit, là-bas, il n'y a personne, pourquoi tu restes là à attendre? Change de caisse, allez, change de caisse. Il dit, voilà, évidemment, maintenant c'est trop tard, il n'y a qu'à demeurer. Il regarde dans le vide, je ne sais pas s'il est avec moi. Il regarde dans le vide, il fait son air que les gens ensuite, ils disent, il n'est pas facile, monsieur André. Je le regarde, je le dévisage, je me dis, si je le regarde fixe, il va bien finir par tourner la tête, prêter un œil à moi plutôt que de m'éviter sans relâche. Il tourne la tête, il ne fait que passer, aller-retour. Il m'effleure. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Il dit, j'ai la casquette de travers, c'est ça? Il parle haut, il tonitrue. Tous les yeux sont sur nous. Ils vont de l'un à l'autre. Tout le monde nous surveille, nous sommes l'attraction. Je voudrais disparaître. Je dis, avance, papa. Je dis, passe-moi le truc là pour séparer, je vais poser les choses sur le truc là. Je voudrais ne pas être venu. Ils font comme si, mais je vois bien. Leurs yeux qui font comme pour circuler, alentour pour mieux sur moi s'arrêter et hop s'éloigner si je les surprends, comme ces bestioles là sur l'eau, araignées d'eau qui tac tac vont et viennent à la surface de l'eau. Je dis, je chuchote, je murmure, je me penche en avant pour parler bas et que lui seul m'entende, je dis, c'est moi que l'on regarde. Je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Personne ne te regarde là-bas chez toi, dans le monoprix de chez toi, tel que tu es accoutré et tout, il dit. Mardi, oui. Je suis à Monoprix, je fais la queue à Monoprix. Les yeux de ceux-là qui détaillent, scrutent, déshabillent, essayent de voir, d'imaginer ce qui dessous avant existait, avant que tel quel je sois désormais. C'est mardi, jeudi.
Jeudi. Mardi.
très beau. Enfin, c'est un beau passage. Ouais. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien ce monologue. Je l'ai pas vu sur scène jamais. En fait, j'ai rien vu sur scène. J'ai que lu parce que moi, j'adore lire le théâtre. Je sais pas si vous lisez aussi beaucoup
de
théâtre.
Oui, j'aime beaucoup ça. Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, les auteurs vivants. Ça me fait penser à ça, l'idée de la relation avec les acteurs. Le texte qui suit s'appelle auteur, le petit texte après le mardi à Monoprix, d'une autre facture, peut-être un petit peu moins.
C'est plus léger, on va dire.
Voilà. Il s'appelle auteur vivant et il y a un personnage dedans qui dit, qui parle de son rapport aux auteurs vivants. Maurice, c'est le premier, Maurice, il dit, les auteurs vivants, un cauchemar. Une fois, une seule, j'ai travaillé avec un auteur vivant. Bon, il y a prescription, il est mort. Impossible de rien changer, pas même une virgule. Un type d'un pointilleux, assis toute la sainte journée, à pas décrocher un mot, terrible. Donc, est-ce que vous êtes ce genre d'auteur vivant avec vos metteurs en scène ?
Ça doit être un peu moi, oui, au départ. Oui.
C'est vrai ?
Le modèle, ça doit être un peu moi. Non, je ne suis pas comme
non.
ça.
Non. Vous n'êtes pas comme ça.
Non, je suis un gentil garçon.
Non, mais je veux dire, non, mais ça veut rien dire. Mais je veux dire, ça vous fait mal. Ça vous fait mal quand on change des choses.
Bah, ça dépend ce qu'on change. Si c'est une virgule, oui, j'ai horreur de ça.
Ah, bah, c'est pour ça que vous les mettez plus. C'est une bonne façon de pas
souffrir.
Non,
c'est disons que les textes que j'écris de théâtre, ils sont finalement, je trouve, qu'ils sont assez ouverts, c'est-à-dire qu'il y a peu d'indications. Il y a peu de didascalie, finalement. Et donc, ils sont assez ouverts. On peut les monter, je pense, de différentes manières. Et c'est ce que j'aime dans le théâtre. C'est-à-dire que j'ai pu voir, par exemple, d'une pièce qui s'appelle Le Pas bouger. J'ai pu avoir plein de versions très différentes, des versions très, très drôles, des versions plus poétiques, des versions très terre-à-terre, un peu comme ça. Et je trouve ça... Enfin, c'est ce que j'aime dans le théâtre. C'est vraiment ce que j'aime dans le théâtre. C'est donner un matériau à quelqu'un, comme ça, qui va ensuite amener son imaginaire, l'imaginaire des acteurs, l'imaginaire même de celui qui fait la lumière ou les décors.
Ce qui me
gêne vraiment, c'est quand on passe à côté du texte, quand on ne comprend pas le texte. Et ça me...
Voilà, c'est vraiment le sens. Mais donc vous en parlez avant
Et ben, quand on me le demande, quand on m'invite à être là présent, j'essaye de faire entendre vraiment, de suivre. Oui, ouais. Après, il y a beaucoup de textes qui sont des commandes. Dans les textes récents, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits parce que c'était une commande d'un metteur en scène ou d'une compagnie. Et donc, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, je travaille vraiment avec les gens sur un assez long terme. C'est-à-dire qu'on discute d'abord et puis je vais voir les premières répétitions pour expliquer le texte, pour discuter des endroits qui peuvent être des endroits compliqués ou des endroits un peu flous comme ça dans les textes.
Et est-ce que vous êtes devenu un auteur dramatique, non, un auteur de théâtre, pardon plutôt pour ça, pour ce plaisir-là, ce rapport, ou alors parce que...
Au départ, c'est vraiment pour ça. C'est-à-dire qu'au départ, je suis allé vers le théâtre à cause de rencontres, parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont incité à le faire, mais aussi parce qu'il y a eu un moment où l'idée d'être romancier, d'être toujours tout seul, c'était un peu... Il y a eu une période où c'était pénible. Je trouvais ça difficile, et donc j'avais... retourner le cinéma parce que j'ai fait un scénario qui est devenu un roman, mais j'avais vraiment envie de ça, du contact avec les autres. Et donc c'est vrai que le théâtre, en tout cas les derniers textes, plus ça va, plus les textes sont assez ouverts et assez c'est un matériau que j'amène qui peut encore bouger dans les premières répétitions. J'aime beaucoup maintenant écrire, pas en direct sur le plateau, mais changer des choses, faire bouger le texte pendant les premiers temps de la répétition. Donc j'aime bien cette idée-là, quoi.
Et justement, donc là, ça vient contredire ce que dit ce personnage, Maurice, c'est-à-dire que justement, travailler avec des auteurs vivants, ce qui est chouette, c'est qu'ils sont vivants, donc on peut changer des choses, puisqu'ils sont vivants, qu'on peut leur poser la question, ou même le faire sans leur poser la question, et faire valider après, ce qui est quand même plus difficile à faire avec des auteurs qui ne sont pas là. C'est vrai que c'est... parce que moi, je suis toujours confrontée à la fidélité. Les metteurs en scène, souvent, veulent être très fidèles. Je suis très contente, là, parce que Karel Prugnot, avec qui je travaille, est très infidèle. Mais bon, en même temps, comme on est très proches l'une de l'autre, je peux lui dire, je peux la rattraper, je peux aller lui dire « Non, non, cette phrase-là, tu ne me l'enlèves pas, ce n'est pas possible, ça fait tout tomber. » Mais j'aime bien qu'il y ait du mouvement, quoi. Profiter qu'on soit là, qu'on soit vivant, qu'on puisse nous parler.
Mais enfin, après, c'est vrai que je suis quand même. Voilà, j'aime pas trop qu'on change les textes, j'aime pas trop qu'on coupe dedans. Mais c'est surtout par rapport au sens. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des moments où tout d'un coup, c'est sans doute de ma faute aussi parce que je mets pas d'indication. C'est aussi, voilà, je cherche un peu ça. Mais il y a des fois où, voilà, ce que je vois, le spectacle est un peu en contradiction avec l'idée du texte derrière. Donc, je peux préciser si vous voulez.
Oui.
C'est par exemple, donc cette pièce s'appelle Pas bouger, qui est une pièce que j'ai écrite il y a quelques années, qui a été jouée dans beaucoup, beaucoup d'endroits, il y a eu plein de versions. Et c'est une pièce avec deux personnages qui sont l'un et l'autre dans une contrainte assez imbécile. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ne peut pas bouger, qui attend un signe pour bouger, et l'autre qui doit voir un cycliste pour arrêter de bouger, pour arrêter de marcher. Donc c'est assez con. Et il y a eu quelques. Donc pour moi, les deux personnages sont aussi absurdes l'un que l'autre, même si celui qui bouge, il est plus proche de nous parce qu'on est comme ça un peu, on n'arrête pas de bouger. Et il y a eu quelques versions comme ça où la personne qui faisait la mise en scène, parce que c'était un type qui marchait tout le temps, a dû se poser la question, j'imagine, qu'est-ce que c'est un type qui marche tout le temps ? Et donc, la première chose qui vient à l'esprit, en tout cas qui est venu à l'esprit de ceux ou ces metteurs en scène, c'était, s'il marche tout le temps, c'est que c'est un randonneur. Donc on le fait mettre en scène avec un sac à dos, avec une boussole, tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas compris le texte. Et c'est, alors là, quand j'arrive et que je vois un sac à dos, je sais que ça va mal se passer.
Donc il aurait fallu peut-être mettre une contre-didascalie.
Mais voilà. Il faudrait faire une autre version. Il faudrait que je fasse mon Beckett et que j'interdise qu'il y a un sac à dos dans la mise en scène.
Alors, cette pièce, donc Pas bouger, est éditée avec une autre qui s'appelle Qui va là, toujours chez Actes Sud Papier. Et dans Qui va là, alors c'est le contraire, c'est bourré de didascalie. Donc c'est bien.
Ça vient de la contrainte de la pièce, c'est-à-dire que la pièce a été, c'est un acteur qui jouait dans Pas bouger qui m'a demandé d'écrire une pièce pour aller jouer en appartement. Et donc l'idée de la pièce, disons, c'est que c'est quelqu'un qui sonne chez vous et qui vous dit, voilà, j'habitais chez vous avant vous, il y a longtemps, et j'aimerais bien revoir la maison, voir comment ça a changé, tout ça. Et puis il s'installe, il prend son temps, il prend une douche, il mange.
Mais alors tout est précisé,
il
revient au salon, un verre d'eau à la main, immobile debout, il s'appuie contre le mur, il s'étire, il baille, il se frotte les yeux, enfin c'est
la seule qui soit aussi précise. C'est la seule qui
soit
aussi précise.
Pour l'acteur, je veux dire. Pas pour le lecteur. Pour le lecteur, c'est très bien. Parce qu'on s'imagine.
Et ça, c'est une seule version. Celle qui est dans ce livre, c'est une seule version. Mais comme avec l'acteur qui m'a commandé la pièce, il l'a joué dans beaucoup, beaucoup d'endroits.
Ouais.
Et en fait, à peu près chaque fois qu'il jouait, il m'appelait. Il fallait que je change le texte parce qu'il n'y avait pas d'étage, il n'y avait pas d'escalier. Donc c'était très compliqué.
Oui, donc ce sont des didascalies évolutives.
Oui,
là, vous avez
mouvante,
inventé la
voilà.
Didascalie.
Là, c'est juste une qu'on a arrêtée, mais voilà.
C'est intéressant. Et donc, on va peut-être passer au roman un peu, parce que alors, vous avez commencé par le roman, après Grande Traversée, combien de pièces de théâtre
J'en ai écrit 5 ou 6 avant de revenir au roman.
Et ensuite, on revient à un roman qui s'appelle
Un des malheurs.
Un des malheurs. Et ensuite, il y aura un roman qui s'appelle Le Bonheur. Donc là aussi, on est dans une forme musicale presque, d'écho. Et alors, c'est intéressant parce que ces deux romans-là, en tout cas que je connais, peut-être il y en a d'autres, on voit l'écriture théâtrale se contaminer le texte du roman avec une multitude de narrateurs, multitude de points de vue à chaque fois. Et pour un des malheurs, même un début, qui est comme une didascalie presque. Juste là, près d'ici, point à la ligne, une petite ville dans le creux d'un vallon. Un vent glacé, quelques flocons, une fin d'automne. Donc on est là, on est complètement dans le début d'une pièce de théâtre. Et ensuite, le texte se partage entre dedans et dehors. Alors le dedans peut se passer dehors aussi.
Oui.
Oui, d'accord. Non, c'est juste. Je me demandais si j'avais pas compris des trucs. Donc le dedans peut se passer dehors et le dehors peut se passer dedans. Moins.
Oui, tout à fait. Oui,
oui. Oui aussi, d'accord.
Bah, l'idée, c'est une ville assiégée, donc il y a dedans, c'est ceux à l'intérieur.
Ceux qui sont à l'intérieur, mais c'est pas...
Donc
voilà.
Ceux qui assiègent, effectivement, forcément, à un moment donné, ils aspirent à être dedans.
À être dedans. Et est-ce que c'est vraiment parti de ces deux mots-là, l'écriture de cette pièce?
Non, pas du tout.
Non, parce que ça, c'est très présent.
Oui, oui. En fait, l'idée, c'était donc d'écrire sur la guerre, d'écrire sur une guerre, pas une guerre en particulier, mais sur l'idée de la guerre en général. Et donc, j'ai écrit plein de choses, j'avais tout un matériau écrit. Et puis, j'avais du mal à trouver comment articuler le livre. Et donc, j'ai passé un mois à Sarajevo, après la guerre. Et en fait, le fait d'être présent sur place, le fait d'avoir sous les yeux géographiquement ce que c'est qu'une ville qui peut être assiégée, c'est-à-dire que Sarajevo, c'est au fond d'une cuvette comme ça, et puis il y a des collines des deux côtés, avec des arbres en plus, et on imagine très vite ce que c'est que d'avoir des canons tout autour sur ces collines. Ça devient très présent. Et mon idée de départ, c'était, j'avais envie d'écrire autre chose que ce que j'avais pu lire comme roman sur la guerre. Et j'avais l'impression que très souvent, dans les romans sur la guerre, c'était surtout les soldats, le mouvement des troupes, les armées qui... Et ce que j'avais envie vraiment, c'était de faire entendre la voix des gens à l'intérieur d'une ville, innocents entre guillemets, les gens à l'intérieur d'une ville qui sont assiégés comme ça. Et j'étais parti pour n'écrire que ce point de vue-là. Et une fois que je suis arrivé à Sarajevo, avec ces collines autour, il s'est passé un moment où je me suis dit, ça sera beaucoup plus intéressant si je fais les deux côtés, si je fais vraiment l'aller-retour entre les deux. Et donc voilà, ça s'est construit à ce moment-là, à partir de ce voyage. Le livre s'est vraiment construit à partir de là, mais je n'avais pas du tout l'idée au départ du dedans-dehors.
Oui, donc je comprends mieux. Oui, il est très important, le dedans-dehors. Pour.
Et c'est vrai qu'après, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que c'est un roman qui est venu après un long temps d'absence au roman, disons. Qui est venu après un long temps d'écriture théâtrale et qui effectivement dans les deux romans les deux derniers romans parus, donc celui-là et puis Le Bonheur, je pense pas que ça puisse être adapté au théâtre, je pense pas que ça puisse être incarné au théâtre, mais par contre c'est vrai que dans la façon d'écrire,
façon
de construire le livre, c'est-à-dire que l'un et l'autre des deux livres, il n'y a pas de narrateur. C'est une espèce de polyphonie comme ça, une multitude de personnages, certains qu'on suit tout au long du livre. Il y en a une dizaine qui sont assez importants, qu'on peut suivre tout au long du livre. Et puis d'autres qui apparaissent peut-être parfois une demi-ligne, parfois une demi-page. Des personnages qui sont soit nommés, soit qui sont juste des ombres, comme ça, comme dans une ville assiégée. Parfois, certaines paroles qui nous parviennent, c'est même la parole de gens qui ne sont plus déjà, qui sont morts et qui nous parlent encore un peu de l'au-delà ou d'un entre-deux, comme ça. Et voilà, le livre se construit comme ça, entre dedans, dehors, mais à chaque fois des voix différentes qui parlent.
Oui, et ce qui est très original, c'est qu'elles sont des voix différentes, mais très courtes à chaque fois. Hein. C'est pas comme, on part 10 pages avec un personnage, et puis après on... Oui. Non, c'est des toutes petites vignettes à chaque fois, des petites, on ouvre la fenêtre, c'est pointilliste. Enfin, j'aime pas ça, mais enfin, oui.
Ouais, ouais.
C'est ça.
C'est des tas de petites voix, en fait, qui construisent à plusieurs, comme ça.
Et
une espèce
alors,
de grand cœur.
Ce qui est amusant dans ce livre aussi, parce que c'est drôle, parce que c'est quand même un livre sérieux. Enfin, c'est pas drôle, justement. C'est un livre assez sérieux et dur. Et en même temps, les noms des personnages sont tout à fait fantasques. Il y a Caillou, Salive, Brûlé, Cheval et sa femme jument. Dommage, etc. Et ils ont tous des prénoms qui sont normaux, c'est du style Pierre Caillou, etc. Et alors, ces noms, parce que ces noms, ils ressortent de la page, évidemment. On est dans une ambiance quand même enfermée, dure, la guerre, etc. Puis on a des noms comme Caillou, Jument. C'est quoi ça?
En fait, l'idée au départ, c'était effectivement, je voulais écrire sur la guerre en général, mais c'est vrai que je me suis inspiré beaucoup de la guerre en Bosnie. Et je voulais pas du tout qu'il y ait. Des noms bosniaques ou des noms des Balkans. Je ne voulais pas du tout qu'entre en compte, parce que ça devenait trop compliqué, ça me dépassait l'idée d'ethnie ou l'idée de conflits religieux, disons. Et puis, ce que j'avais, c'était à partir d'une guerre comme ça précise, faire une espèce d'histoire d'une guerre qui pourrait être vraiment aux portes derrière, chez nous, quoi, disons. Et donc, c'est vrai que. Au contraire de prendre des noms de la Bosnie, des noms croates, des noms, j'ai plutôt choisi de prendre des noms vraiment bien de chez nous, que j'ai pris en fait dans les cimetières, que j'ai pris comme ça pendant un moment. J'ai cherché des noms partout, donc j'ai cherché dans les cimetières, Et tous ces noms, tous les noms qui sont là, à part Cheval et Jument, tous les Pierre Louis Dommage, Pierre Salif, tout ça, c'est des noms que j'ai trouvés. Voilà.
Et c'est très important, les choses qui existent pour vous. Hein, ça vous permet de vous accrocher.
Bah, y a une espèce,
les
voilà,
noms,
de,
hein, c'est comme ouais, Monoprix, ouais, là. Ouais, ouais, on les tient. Et...
Et alors, par exemple, il y en a un que j'aime bien, c'est Pierre Salif, parce que Pierre Salif, c'est... j'ai regardé la télé, il y avait un film dont j'ai aucun souvenir, ça n'a aucune importance, mais le générique à la fin, et c'était un chef opérateur qui s'appelait Pierre Salif, et je lui dis, hop, lui, hop,
il va être dans le livre. Est-ce que ça vous arrive aussi, moi ça m'arrive, enfin, quand je suis en plein dans l'écriture, je lis un livre ou je suis dans la rue, j'écoute la radio, etc., il y a des mots qui sortent. Et je suis sûre qu'ils seront dans les pages qui vont venir. Et je les note. Parce, enfin, je ne suis pas du style à prendre des notes, des descriptions, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout mon genre. Mais il y a des mots, on est sûr qu'ils se retrouveront sous notre plume.
D'accord,
C'est pareil.
Oui, puis c'est vrai que quand on est dans un... Enfin, il me semble qu'on est dans un état particulier. Quand on écrit un roman et qu'on a le... C'est des périodes où on est complètement dans quelque chose. C'est-à-dire qu'on écrit sur la guerre, mais en même temps, on continue à aller chez Monoprix faire ses courses et aller chercher ses enfants à l'école. Enfin, voilà, on fait plein de choses quand on continue à faire ces choses-là, mais en même temps, on a toujours la tête concentrée là-dessus. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui rentrent des voix, des gens qu'on raconte, des images qu'on voit, qui n'ont rien d'image de la guerre, mais qui, tout d'un coup, parce qu'elles sont concrètes, parce que c'est des choses du quotidien, voilà, elles viennent s'insérer dans une histoire, quoi.
Et comment on sait que ce mot-là, qui n'a rien à voir apparemment avec ce qu'on est en train d'écrire, va avoir sa place, quoi. Ça m'a toujours paru assez mystérieux.
Sans doute parce qu'il rentre à un moment donné en résonance avec un personnage auquel on a déjà pensé, ou sans doute parce que il y a quelque chose de... En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on l'entend ? Qu'est-ce qu'il y a quelque
pourquoi
chose de sans doute de
ouais.
Peut-être de... Ça peut être quelque chose de drôle, ça peut être quelque chose d'émouvant, ça peut être quelque chose d'un peu absurde, des phrases d'enfants qui tout d'un coup font tilt et s'inscrivent dans une histoire.
Ouais, moi je parlerais... Enfin, moi je parlais plus de vraiment juste des mots, c'est-à-dire pas une histoire, pas une image, pas juste un mot, je sais que celui-là, il va être là. Et alors je le marque, puis je le mets sur le bureau, et en effet, il s'y retrouve, évidemment, puisque j'ai décidé qu'il s'y retrouverait. Mais ça
il n'était pas prévu. Quand même.
Et parce que, par exemple, Pierre Salif, on réfléchit 5 minutes, on ne le prend pas comme personnage. On se dit, ah, c'est trop beau, Pierre Salif, c'est marrant comme nom quand on le voit au générique. Mais bon, c'est un peu gros, quoi. Tout d'un coup, on se dit, bon, non, je ne vais pas le mettre. Et puis si, justement. Lui, oui.
Oui. Et puis, il y a le général Brûlé en face, qui est là pour attaquer
Salif
la ville.
Salif et Brûlé,
espèce d'échange entre les deux, quoi. Chacun étant chef de ceux qui se regardent en face.
Et vous avez conscience un peu quand même de l'humour que ça vienne apporter au texte, hein.
Oui, parce que c'est un livre dur, hein.
C'est un livre très dur, justement, donc il y a ces petites bulles comme ça.
Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire, mais sans doute depuis que j'écris du théâtre aussi, d'essayer de trouver. Alors, l'humour, c'est pas forcément le mot, pas pour ce livre-là, mais
une
espèce de distance, une espèce de légèreté comme ça à l'intérieur qui permet de souffler un peu dans la lecture d'un texte qui est pas, enfin voilà, qui est une histoire qui est assez sinistre, enfin qui est une histoire de guerre, quoi, donc d'une ville qui passe de l'un à l'autre, quoi. D'un dedans qui devient un dehors et d'un dehors qui devient un dedans.
Alors, je regarde ma montre et vous avez des questions? À poser à Emmanuel ou à moi-même.
Je voudrais te remercier Marie d'avoir si bien montré quel poète rocailleux, rock'n'rolleux était aussi Emmanuel Darlet par tes questions. Et tu avais dit, quand on t'a invité à tenir ce rôle, que tu voulais absolument travailler cette question du passage d'un genre à l'autre, c'est-à-dire roman, théâtre, c'était vraiment pour toi fondamental. Donc je te remercie d'avoir si bien amené cette confusion des genres qui te tient beaucoup à cœur, qui est motrice chez toi, maintenant, cette question du passage d'un genre à un autre. Et je crois que ce que vous avez montré tous les deux par votre conversation, c'est qu'au fond, dans la littérature très contemporaine, avec les auteurs vivants qu'on a en face de soi et qu'on peut questionner, cette explosion des genres est très prégnante. Cependant, ça reste extrêmement certain presque pour l'un ou pour l'autre que vous écrivez du théâtre, que vous écrivez des romans, la poésie étant partout dans tout ça, pour vous, pour l'un et pour l'autre, notamment ce que vous venez de dire sur les mots qui ont une, rien que parce qu'ils ont aussi la sonorité qu'ils ont ou la musicalité qu'ils ont, œuvre pour vous. Alors tu es d'accord avec moi, Marie, ou pas?
Oui, c'était quoi la question? Non, je rigole, je l'embête tout le temps. Mais c'est-à-dire il y a la vérité du genre roman, théâtre, etc. Mais il y a aussi la vérité de notre société. Et dans notre société, ce qu'on lit, ce qui est valorisé, tout ça, ce sont des romans. Hein, c'est-à-dire qu'être romancier, c'est quand même un truc très... Et le théâtre est très valorisé aussi, mais pas pour la lecture. Le théâtre n'est pas reconnu par des institutions, je ne sais pas, ou peut-être, enfin, peut-être on va me contredire. Non, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment le roman, c'est the genre, quoi. C'est le truc qui domine tout. Les grands prix littéraires, ce sont des romans. Les figures, même des penseurs et des philosophes formidables ont envie d'écrire des romans pour être consacrés, alors qu'il ferait mieux de rester dans leurs essais, dans leurs pensées, parce que c'est là où ils sont beaucoup plus forts. Et donc il y a ça, il y a cette chose-là du roman qui est où on est très attendu au tournant, quoi, et très attendu par quelque chose qui vous reconnaît très fort. Et donc moi j'ajouterais ça encore à la question du genre, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr la question de quand on se met à sa table de travail, cette histoire-là, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On raconte des histoires, des sujets, des choses qui nous tiennent à cœur, des émotions. Est-ce que je vais la raconter dans une chanson? Est-ce que le format de la chanson va être assez long, hein? Est-ce que parfois ça suffit, une chanson, ou alors une pièce de théâtre, ou alors un roman. Mais il y a aussi la façon dont ça va être accueilli après, dont ça va être digéré, dont ça va être mangé par les autres. Hein, parce que c'est quand même important, on partage, nous on écrit, mais c'est aussi, c'est vraiment pour partager. Et du côté du roman, pour moi en tout cas, il y a une certaine lassitude, peut-être parce que j'en ai écrit pas mal, hein, et que j'ai un peu l'impression pas de tourner en rond en l'écrivant, parce que j'ai toujours j'ai l'impression toujours de chercher, mais j'ai l'impression de tourner un peu en rond quand ça sort, c'est-à-dire les rapports avec les journalistes, les rapports avec... pas vraiment les lecteurs, on a peu de rapports directs avec les lecteurs, mais enfin, avec ces intermédiaires qu'on voit à la sortie. Et que c'est à la fois lourd, hein, parce qu'il y a tous ces trucs des prix, etc., etc., et de la masse des livres publiés, et pas forcément très juste comme façon de lire les choses. Enfin, voilà. Et alors... Moi, je trouve à ce moment-là, dans le théâtre, quelque chose de nouveau, quelque chose de pétillant, quelque chose de qui est vraiment dans le partage direct, puisque d'abord parce que j'ai la chance d'avoir une éditrice, nous avons la même éditrice qui est pétillante elle-même et qui nous donne plein de force pour écrire, hein, mais aussi parce que évidemment, c'est tout de suite après les metteurs en scène, les acteurs. Et voilà, qu'on est dans la vie même, quoi, et puis que la vérité, elle est là, c'est la vérité du plateau. C'est, je veux dire, on peut pas, quand on est sur les planches et qu'il y a un texte, on n'est plus dans le. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là de la différence roman-théâtre que je pourrais parler, sinon.
Moi, je sais, enfin, j'ai toujours du mal à. Parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Quelle différence entre les romans et le théâtre, et j'ai toujours du mal à dire. Je sais toujours quand je commence quelque chose, quand je pense à une idée, je sais toujours si ça va être un roman ou si c'est du théâtre. Mais en même temps, je ne sais pas exactement définir pourquoi cette certitude. Pourquoi est-ce que je sais, voilà. Après, j'ai l'impression que dans le travail même d'écriture, j'ai toujours trouvé plus de liberté dans l'écriture de théâtre que dans le roman. Et même si justement, dans les deux derniers livres, justement, j'ai choisi une forme comme ça, de cette polyphonie qui fait que j'ai un peu retiré ce qui me pèse dans le roman. C'est-à-dire l'idée du narrateur, l'idée d'une description. Voilà, c'est des choses qui me pèsent un peu, donc j'essaie de trouver une autre manière de raconter les choses, d'une autre manière de raconter les choses. Mais c'est vrai que de toute façon, je suis quand même, plus ça va, plus je suis quand même plutôt dans du côté du théâtre que du roman.
Est-ce que vous avez une ou deux autres curiosités ?
Bon.
Si on a encore 3 minutes, on peut finir juste par un petit texte, parce que c'est quand même plus beau de se quitter sur de l'écriture. Si vous voulez bien nous lire quelque chose.
Donc je vais vous lire un extrait de ce roman qui s'appelle Un des malheurs. Et donc je vais vous lire c'est dehors. Dans la partie qui s'appelle Dehors, en dehors de la ville. Et c'est donc le personnage dont Marie a parlé, qui s'appelle Jument, qui, comme vous avez bien suivi, Jument, c'est la femme de Cheval. D'accord. Pardon.
Si c'est pas filmé, tu peux y aller.
Oui, c'est bon. Donc, Jument et Cheval, par rapport à la question de tout à l'heure, est-ce que dedans peut être dehors et dehors ? Jument et Cheval, ils habitent dehors, en dehors de la ville, mais ils sont, on va dire, de cœur avec ceux dedans. Donc ça, c'est dehors. Moi, je suis Jument, la femme de Cheval. Et j'attends bien tranquille. À balayer devant ma porte la neige. À espérer assez vite des nouvelles. On ne sait pas trop bien, là-bas, ce qu'il y a, ce qui se passe. On reste là, sans trop bouger, oreille tendue. On voudrait sortir, avancer, voir, mais bon, difficile d'approcher. Des soldats, ça et là. Trop peur de se faire repérer, d'attirer ici ce qui, là-bas, se trame. Cheval, désormais, soldat qu'il doit être. Avec le casque sur la tête et les médailles sur la poitrine. Je le connais, mon cheval. Là, pas peur, mon cheval. Tout devant qu'il doit être à diriger les autres. Un soldat comme lui ne doit pas y en avoir deux. Lui devant et les autres derrière. Lui debout à penser bien, à voir clair et à gueuler la marche et les attentes, gueuler, cheval, tout bas, à l'oreille de ses gars pour qu'il n'oublie rien, qu'il tire comme il faut, où il faut. Va revenir, cheval, et d'un bon pas, c'est sûr. Nous aura même libérés. Tout foutu dehors, les autres, venus chez nous, tout repoussé jusqu'alors chez eux, pour qu'ils y restent cette fois. Cheval, c'est un bon gars, un gars costaud qui a peur de rien, allant de l'avant sans se cacher la face, allant à l'ouvrage sans souffler mot, et tous les autres doivent le suivre, entraînés par cheval qu'ils sont tous. Chef de guerre. Cheval qu'il doit être, avec la voiture, l'escorte et le costume, sûr. Un beau costume, oui. Peut-être pas repasser, mais bon, quand il faut, un pli là ou là, ça compte rien, c'est pas du grave. Moi, mon nom, c'est Jument, et je suis la femme à cheval. J'attends là bien tranquille, malgré le froid, la nourriture si rare, rapport au marché, à Restonica, impossible à rejoindre. J'ai pas peur du tout. C'est parce que j'ai l'idée de cheval dans le crâne. Jamais elle sort l'idée de cheval de ma tête, ni le jour ni la nuit. Comme ça, je tiens.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup Marie Nimier, merci beaucoup Emmanuel Darlet. Donc nous nous retrouverons le 21 mars, c'est Gilles Ortlieb qui accueillera Jean-Luc Sarré. À bientôt.